réunit des jeunes du Sud global.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
La nuit entre dans la ville entre dans la nuit. Grise, mauve, bleu, noir. Les fenêtres s'allument, les contours s'estompent. Les lumières de la rue, les néons des boutiques, des restaurants, des cafés insistent encore, mêlés au faisceau des phares des voitures, au feu de circulation. Les lumières des appartements, des maisons disparaissent peu à peu, renoncent, avalées, dissoutes. L'heure de rendre les armes ou de résister un peu, encore. Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois, une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils, tous ceux que le sommeil fuit? Laissons-nous porter par les nouvelles de Gaël Josse qui nous entraînent dans les méandres de la nuit pour approcher au plus près les émotions qui la traversent.
Veille et il regarde le fleuve. Le fleuve s'écoule en roulant d'un flux continu, un flux qui semble couler depuis la nuit du monde. Son travail, c'est de veiller. Il arrive au soir dans le silence des bureaux vides. Il s'installe dans la petite pièce équipée d'écrans, de téléphones. Il va guetter, nuit après nuit, ce qui pourrait survenir. Derrière sa chaise à roulettes, sur une table, il y a une cafetière, un plateau avec deux mugs en faïence blanche siglés du logo de la société, une boîte à sucre, une bouilloire, des sachets de thé, scellant, thé vert à la menthe. En arrivant, il a accroché sa parka au dossier de sa chaise, glissé les gants et le bonnet dans les poches. Il peut commencer sa veille. Le mur d'écran montre en gris, légèrement tremblotant, des corridors déserts, des salles de réunion et des bureaux vides. Si les détecteurs de mouvements s'affolent, c'est qu'il y a un problème, une probable intrusion. Il connaît la procédure. À ce jour, ça n'est jamais arrivé, mais il reste en tension. Au siège, le mois dernier, les bureaux ont été visités. Suspicion de cambriolage à des fins d'espionnage industriel. C'est ce qu'on leur a dit. Alors, vigilance renforcée. Une sonnerie le fait sursauter. Il consulte sa montre. C'est déjà l'heure d'aller faire sa ronde. Lampe torche, oreillette, un étage après l'autre, en grimpant jusqu'au dernier. Il enfile son bonnet, noue son écharpe. Les locaux ne sont pas chauffés la nuit. Pourtant, c'est le moment qu'il préfère. Sa ronde de nuit. Il finit par s'enquiloser sur son fauteuil à roulettes, à scruter les écrans muets et à enchaîner les mugs de café. Il arrive au dernier étage, dans la grande salle vitrée d'un seul tenant, du plancher au plafond. C'est vertigineux. mais il aime cette sensation. Derrière lui, des ordinateurs éteints sur leurs pieds en alu, les uns à côté des autres, sur les bureaux en enfilade. Devant lui, le fleuve et son scintillement continu, le périph. Phare blanc, phare jaune, lumière rouge, gyrophare, voiture, camion, taxi, moto, ambulance. Il pourrait rester là le reste de la nuit à fixer le flot. À travers le double ou triple vitrage, on n'entend rien. C'est un glissement silencieux et infini. Mais qui sont-ils tous? Où vont-ils? Aux heures les plus obscures de la nuit? Qui les attend? Parfois, une voiture de police ou un véhicule de pompier impulse une accélération en trouant le flux, lequel retrouve ensuite sa régularité. Qui sont-ils? Où vont-ils? Il aimerait savoir. Il peine, soir après soir, à s'arracher à ce spectacle. Il a l'impression, par sa seule présence en surplomb au ras de la vitre, de veiller sur eux, sur chacun d'eux, un peu comme le Christ de la baie de Rio. Son visage a la couleur de l'ombre. Ses yeux ont la couleur de la nuit. Il remue les lèvres, mais on ne l'entend pas. Une fine buée couvre la vitre devant sa bouche. Il murmure pour les absents. Ces mots qu'on n'entend pas, qu'il psalmodie en un long ruban continu, il est certain qu'il les entende. Là-bas, au-delà de cette baie vitrée, au-delà des mers, au-delà des sables et des montagnes, il psalmodie dans sa langue, dans la leur. Il leur dit l'absence, la distance, les villes qui blessent et qui dévorent, les regards qui ne voient pas et qui transpercent. Il leur dit le peu de fraternité. Il leur dit l'argent qu'il a envoyé comme chaque semaine. Il voudrait raconter le guichet et la longue file des comme lui, mais ces mots-là, il ne les dit pas. Il dit ça va bien, il demande des nouvelles, la santé, les mariages, les enfants, les naissances. Il parle à sa mère accroupie au bord du feu à tisonner des braises avec un bois durci, fixant une flamme qu'elle ne voit plus de ses yeux blancs. Il poursuit sa psalmodie pour elle et pour ses absents. Il veille, il aime à se répéter ce mot « je veille ».
Il s'est couché à l'heure comme chaque soir, quand sa mère le lui demande. Il préfère obéir, ça évite les énervements. Dès qu'il est au lit, enroulé dans sa couette, ses jouets dispersés un peu partout à terre, il les entend. C'est comme ça tous les soirs depuis déjà un moment. Il tend l'oreille, mais il ne saisit pas les mots. Il entend les voix, la colère, l'orage. Il parle fort, de plus en plus fort. Les voix se chevauchent et cherchent à se dévorer l'une l'autre. Il entend une porte qui claque. Alors, il essaie de descendre le plus loin possible au creux de son lit, de descendre tout au fond de cette cabane tiède, de fermer les yeux de toutes ses forces. Le sommeil résiste. Il tente de penser aux entraînements de foot, à Mila qui a partagé hier son goûter avec lui, à la maîtresse trop belle avec ses cheveux longs, si douce, qui lui a fait un compliment ce matin, juste avant la récré. « Il est très beau ton cahier, Léo. » Il tend l'oreille, encore. Il a entendu un bruit. Une portière de voiture et le bourdonnement du portail électrique qui s'ouvre. Il se lève, repousse le rideau bleu pâle avec des lapins qui gambadent dessus, celui qu'il a demandé à sa mère de remplacer. « Ça fait trop bébé, les lapins, maman !» À travers les interstices du volet, il cherche. Il fait nuit noire, mais le lampadaire de la rue diffuse un halo orangé sur une partie du jardin. La voiture de son père, la 208 grise avec l'autocollant triangulaire, bébé à bord, tout décoloré, n'est plus là. Le portail est fermé. Les deux vantaux de bois brun sont clos, collés l'un à l'autre. Il entend sa mère débarrasser la table du dîner à la cuisine, puis la porte de sa chambre qu'elle ferme d'un bruit sec. Il attend. Puis, il s'assied par terre près de la fenêtre. Comme ça, il est sûr d'entendre la portière quand son père va rentrer. Il ne veut pas dormir avant d'être certain que tout le monde est là, au complet. Il attend. Papa est parti. Trois mots qui tournent et s'entrechoquent dans sa tête. Papa, parti. Il se met à grelotter, il claque des dents. Il finit par se glisser dans son lit sans oser allumer sa lampe. Parti. Parti pour de vrai? Parti jusqu'à quand? Parti à cause de moi? Parti pour toujours? Il serre son oreiller fort contre lui. L'oreiller avec des lapins, les mêmes que ceux du rideau. Mais ceux-là sur l'oreiller, pour dormir, il les aime bien. Il leur raconte des histoires. Il les serre contre lui le plus fort possible. Pas question qu'on l'entende pleurer. Mais papa, parti.
Il s'est réveillé tôt. Plus la peine d'insister avec le sommeil. Les heures de la nuit ont été profondes, réparatrices. Il a faim. Il boit longuement à la bouteille d'eau posée sur la table, à la tête du lit, et enfile un sweatshirt avec un pantalon de jogging. Il se lève, avec lenteur, entame une série d'étirements, renoue avec la présence de chacun de ses muscles. Un coup d'œil sur son téléphone. Bertrand passe le prendre dans une demi-heure pour le petit déjeuner. Il répond en envoyant un pouce levé. Avant de passer à la douche, il s'approche de la fenêtre. Le jour à venir s'insinue déjà entre les rideaux mal joints. Il se sent calme, reposé. C'est aujourd'hui. Son titre de champion de France de karaté, catégorie moins de 75 kilos, est remis en jeu une fois encore. Quelques minutes de combat à peine. L'an dernier, il avait vaincu en 2 minutes 37. Les entraînements quotidiens après le travail au dojo ou en salle de sport, les séances de running imposées par son coach, tout va se concentrer en quelques figures rapides qui décideront s'il gardera son titre pour une année encore. Hier, il a traversé la moitié de la France en voiture avec Bertrand. 6 heures de route. C'est lui qui s'est occupé de tout, l'organisation, la réservation de cet hôtel à proximité du gymnase où aura lieu la compétition. Son adversaire, il le connaît, c'est Boris, ce type au nom d'ours russe à qui il a ravi le titre l'an passé. Il va vouloir prendre sa revanche, motivé, dangereux donc. Il l'a croisé à plusieurs reprises dans différentes compétitions. Pas un type très sympa, puissant, massif, agressif. La dernière fois, il l'a trouvé plus musclé encore sous son kimono. Il doit passer son temps en salle de sport. S'il se laisse immobiliser au sol, c'est fini. Ils ont beau être de poids à peu près identique, si l'autre le colle au sol, il ne pourra se dégager. Avec Bertrand, ils ont regardé toutes les vidéos de ses combats précédents. Chercher son talon d'Achille, la faille dans l'armure, sa façon de se lancer dans le combat. Où est sa faiblesse? Malgré son physique impressionnant, il s'agite beaucoup dans une espèce de danse d'un pied sur l'autre, autour de son adversaire. Il la joue mobile, insaisissable, un gros animal qui voudrait jouer. Mais nerveux, agité aussi. Bertrand l'a souvent répété, laisse-le venir, laisse-le se découvrir, il bouge trop, attends pour aller au contact. Ne te jette pas sur lui, attends l'ouverture. Il reste à la fenêtre, concentré dans ses pensées. Avec Boris, il se salue quand ils se croisent, un simple signe de tête, histoire de montrer à l'autre qu'on a enregistré sa présence. Et c'est bien comme ça, rien de pire que de devoir démolir un pote. Il regarde la nuit arriver à sa fin. On distingue les bâtiments autour de l'hôtel, des immeubles, un centre commercial, des étendues de parking encore vides, quelques arbres plantés depuis peu, entourés d'une protection en bois. Rien d'un décor éblouissant. Il sent son cœur battre, lentement, ses jambes ancrées au sol, ses hanches souples. C'est son jour. Il se sent invincible. Pas de fanfaronnade, ni de mauvaise appréciation. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Bertrand lui répète assez. Une sensation de calme, de mise en tension progressive le saisit. Il va gagner, trouver la faille, il va le regarder s'agiter, il va fondre sur lui à la seconde décisive. Son œil, sa rapidité, c'est son meilleur atout. Ça aussi, Bertrand ne cesse de lui rappeler. Bertrand, où en serait-il sans lui ? Depuis 3 ans, il se voit presque chaque jour. Lassitude, doute, fatigue, coup dur, il est là. Discret, mais là. Lorsqu'il est arrivé à son dojo, ce n'était pas gagné. Il lui a fallu perdre de mauvaises habitudes, se discipliner, s'entraîner avec plus de sérieux, de régularité, dompter son énergie tumultueuse, écouter. Écouter, pas simple pour lui. Arrêter de fumer aussi, manger correctement, sortir moins, boire moins. À la maison, ce n'est pas toujours simple non plus. Le 3 pièces avec sa mère et ses 2 sœurs, c'est parfois compliqué. Avec son patron aussi. Pas simple non plus, même si son travail est irréprochable. Les clients l'adorent, mais mauvaise tête, tête de mule. Gentil gars au fond, mais mauvaise tête, pas aidé. Sa mère qui travaille pour 10. Les yeux au milieu du visage quand elle rentre le soir. Ses sœurs qui râlent à trouver ses affaires de sport dans tous les coins. Maintenant, il y met du sien. Ça va mieux. C'est Bertrand qui l'a remis à marcher droit. À éviter certains types et le rebrouille. Pour rien au monde, il ne l'avouerait, mais pour Bertrand, il ferait n'importe quoi. Alors ce titre, cette année encore, il va le lui ramener. Il lui doit bien ça. Et la médaille, il l'offrira à sa mère, et puis il l'invitera au resto. Tiens, ça c'est une idée, ça lui ferait plaisir. Pour Nina, c'est Bertrand qui a tout de suite capté. Pas de clin d'œil, ni de bourrade, ni de questions. Juste un « ça fait plaisir de te voir heureux, tu sais ?» Et puis, il est passé à autre chose. Quand il l'a vu sombre, au cours des dernières années, il était là. Pas de question. Simplement proposer un bowling ou un cinéma, un canapé chez lui pour quelques nuits. Alors Bertrand, c'est sacré. Il aurait voulu un père comme lui. Le sien, il ne sait pas trop où il vit. Et ça vaut peut-être mieux comme ça. N'empêche, parfois, ça lui a manqué. À 8 ans, on a envie d'un père qui vous fait partager des trucs. Et puis, il s'est habitué. Alors Bertrand, forcément. C'est avec lui qu'il a découvert qu'un rêve peut se réaliser. Une vibration sur la tablette. Il s'écarte de la fenêtre. « Avec toi, mon amour, c'est Nina. » Malgré lui, il sourit. Cherche dans ses émojis et lui envoie une flamme claire en son centre et rouge sur ses contours, rien d'autre. Concentré, restez concentré, elle est avec lui, il le sait, ça suffit. Une idée passe, il s'efforce de ne pas s'y attarder, pas le moment. Un petit appartement avec Nina, ça serait bien. Ils sont ensemble depuis plus d'un an pour la Saint-Valentin, il l'a invité au restaurant, mais jamais il aurait imaginé ça. Il regarde l'heure. Juste le temps de se doucher avant que Bertrand n'arrive. En bas, au buffet, ce sera céréales, bananes, œufs brouillés avec un toast peut-être. De l'énergie, mais ne pas se charger, rester vif, tendu. Et puis, la rage, il faut qu'il garde la rage, cette pulsion qui vient de loin. Il pense à son père dont le visage lui échappe presque. Il pense à sa mère, les sacs de courses et l'ascenseur toujours en panne, les courriers de rappel pour le loyer, avec des paragraphes entiers en gras et en rouge posés sur la commode de l'entrée. Il respire lentement, profondément. Oui, pour la rage, ça ira.
Elle ne peut se détacher de la vitre. Elle n'a pas osé ouvrir malgré la chaleur. Peur de faire du bruit, d'attirer leur attention et de les faire fuir comme des chats craintifs, comme des oiseaux. Ils sortent du café d'en face. Ils sont presque les derniers. Seules 2 ou 3 tables paraissent encore occupées à l'intérieur. La terrasse s'est vidée. Ils ont fait quelques pas sur le trottoir, sans hâte, serrés l'un contre l'autre. Ils ont attendu de sortir du halo du café. Elle porte une jupe courte en tissu foncé qui fait paraître ses jambes très blanches. Lui porte un pantalon en toile et un t-shirt noir. Et ce sont ses bras qui paraissent très clairs. Ils s'arrêtent, se tournent l'un vers l'autre, avec lenteur, avec une infinie lenteur, comme s'ils pivotaient juste sur leurs pieds au ralenti, et ils s'embrassent. Ses bras forment un cercle blanc autour de ses épaules, et à côté d'eux, rien d'autre que l'obscurité sur ce trottoir désert. Derrière la fenêtre, elle n'a pas bougé. Elle a envie d'ouvrir, de respirer l'air tiède, mais elle attend, elle les regarde encore. Elle pense à cette chanson. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout devant les portes de la nuit. Elle pense aux mots de Prévert. Elle se dit qu'ils sont là, les enfants qui s'aiment. Elle ne voit pas leur visage, mais elle devine qu'ils sont beaux. On est toujours beau quand un visage amoureux se penche sur soi. Elle les regarde avec douceur, comme si son propre regard les protégeait. Ils sont seuls, ils sont nus dans l'immensité de leur joie. Elle croise les bras autour de ses épaules, du bout des doigts, elle effleure son cou et elle frissonne. Quand, la dernière fois ? Elle soupire, relève la tête et regarde par la fenêtre. Ils sont partis.
Les montants de la fenêtre sont écaillés, du vert foncé apparaît sous la couche de peinture blanche qui s'effrite. La main qui s'y appuie est constellée de taches brunes. La peau très fine, les veines mauves saillantes y tracent des reliefs serrés, sinueux. Le bord extérieur de la fenêtre s'écaille lui aussi, de minuscules lambeaux partent avec la pluie, avec le vent. Les volets laissent saillir des points de rouille, ça et là. Tout cela n'a plus d'importance. La main essuie un peu d'humidité sur la vitre. Le chauffage a été coupé hier. Cela non plus n'a pas d'importance. C'est sa dernière nuit ici. Deux grosses valises, de vieux modèles, même pas de roulettes. Des valises qui n'ont pas voyagé depuis des siècles, fermées à grand-peine, retenues d'une sangle et trois cartons attendent dans l'entrée, avec une lampe en porcelaine décorée de fleurs et d'oiseaux, avec son abat-jour plissé, un guéridon à la marqueterie effacée et une télé. Elle place les mains autour de ses yeux et tente de distinguer les contours du jardin. Le grand cèdre, planté à la naissance de l'aîné, le hêtre roux, recouvert d'or en automne, le rosier grimpant aux fleurs presque noires, aux parfums lourds, les hortensias joufflues qui courent le long du mur. Il faudrait désherber, nettoyer, mettre les feuilles en sac, couper les branches basses des arbres, celles qui tombent presque au sol. Plus d'importance. Demain matin, ces enfants seront là. Tu verras, maman, tu sauras bien, c'est mieux pour toi, c'est trop grand cette maison maintenant. On n'est pas tranquille. C'est vrai. Elle est tombée ces derniers temps. Ça aurait pu être grave. On fait quoi, maman, si tu perds connaissance? On te retrouve au sol, trois jours après? Ils appellent tous les soirs, à tour de rôle, maintenant. Elle dit, ça va, ne vous inquiétez pas pour moi. Et puis son frigo. Un dimanche, ils sont passés et ils ont vu. Quatre yaourts périmés, un peu de beurre, du lait, une salade fatiguée, deux boîtes de miettes de thon. La supérette, ça lui fait loin, maintenant. Et pour si peu, elle n'ose pas demander la livraison. Il faut faire quelque chose, ont-ils murmuré entre eux. Alors, c'est demain. Elle a dit qu'elle est bien comme ça, qu'elle se débrouille, qu'elle est bien chez elle, elle l'a dit. Elle l'aura répété, elle est bien ici avec ses souvenirs, ses meubles, ses repères. Elle a dit, je ne veux pas partir. » Ils lui ont assuré que la chambre était spacieuse et le personnel adorable, qu'elle pourra garder ses affaires personnelles, enfin quelques-unes, sa télé, un petit meuble, son linge, ses albums de photos. C'est mieux pour elle, pour eux, pour tous. Ils lui ont promis qu'il viendrait tous les dimanches. Elle resserre ses mains autour de son visage et tente de distinguer les contours des massifs encore fleuris. Elle cherche la silhouette du grand cerisier tout au fond, son arbre préféré, pour l'abondance des fruits, pour la chanson. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Il est bien court le temps des cerises et sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais tout reste plongé dans le noir.
Chaque année, c'est pareil. Elle l'attend. Elle l'attend comme une enfant impatiente ou comme une amoureuse. Elle est là maintenant. Tout le jour, elle y a pensé. Ça se sentait dans l'air. Elle en était sûre. Cette indescriptible certitude du corps. Ce ciel blanc. Ce sera pour cette nuit. Ils sont arrivés. Ils sont là. Les premiers flocons. Elle s'est réveillée tôt à cause de cette lueur inhabituelle qui filtre à travers les lames des volets en bois. Elle a couru à la fenêtre sans rien allumer dans la pièce. D'un geste lent, elle a repoussé le voilage avec précaution, comme si dehors il y avait un oiseau prêt à s'envoler ou un animal peureux. Et seule dans cette nuit finissante, elle sourit. Elle est là. La neige. La lumière blanche qu'elle dégage est comme une irradiation. Les formes sont assourdies. Les massifs, les haies, le sol de l'allée, la table en fer forgé. C'est une blancheur absolue, irréelle. Chaque branche d'arbre est emmaillotée de blanc, jusqu'au moindre rameau, jusqu'à la plus menue brindille. C'est cet aspect intact qui l'émeut par-dessus tout. Cette virginité qui prend possession de cet espace familier et modeste, qui soudain devient splendeur, devient royaume. Elle pense au goût acidulé de la neige sur la langue, au craquant sur les lèvres. Un goût d'enfance, un autre jardin, le même éblouissement. Oui, elle la goûtera tout à l'heure, lorsqu'elle aura enfilé une paire de bottes et un jean, et elle tendra son visage nu à l'air vif. Elle n'a pas bougé, comme si le moindre mouvement pouvait faire disparaître toute cette blancheur. Elle revoit une fillette immobile sur le seuil de la porte, sa mère qui lui enroule une écharpe au cou, et des hoquets de joie, une course de chien fou, les joues qui brûlent. Son frère aîné qui la poursuit pour lui glisser des flocons durcis entre le col et l'écharpe, leur rire, ses cris de fausse frayeur ravie. Si loin déjà? Dans sa gorge, quelque chose se serre, quelque chose qui monte aux yeux. La beauté du monde. C'est un morceau de cette beauté, là, devant elle, à portée de main, qui bientôt ne sera plus. Elle songe à cette phrase lue il y a longtemps, elle ne sait plus où. Quand fond la neige, où va le blanc ?
À son retour, il s'est installé dans la petite maison que lui ont laissée ses parents. Une meulière défraîchie au bout d'une rue terne après un long trajet en RER. Tout ce qu'il a évité toute sa vie. La maison de l'enfance. Mais où aller maintenant? 20 ans d'avion, d'hôtel, de campement, de voitures défoncées et de camions bâchés au petit matin dans le froid. Courir le monde avec ses appareils photos, montrer, témoigner. La mort offerte sur papier glacé à déguster en terrasse ou chez le coiffeur. Personne ne l'a forcé, c'était son choix. Adrénaline et tout le bazar. Le héros ténébreux, harnaché de Nikon. Et puis le reportage de trop, la scène de trop où il n'a pas pu déclencher. D'autres l'ont fait. Tu vieillis, mon gars, je n'ai pas pu. C'est tout ce qu'il peut en dire. Pourtant, il en a vu d'autres, toujours le premier sur la brèche, le cœur et l'estomac bien accrochés. Un sacré pro, c'est ce qu'on dit de lui, café, cigarette pour avancer dans la journée, un alcool fort le soir, parfois